L'une des caractéristiques évidentes de la nuit est qu'on n'y voit rien. Pareillement, l'immense majorité des êtres humains se trouvent dans les ténèbres spirituelles parce que Dieu ne se révèle pas à eux. Les dirigeants du royaume de Juda avaient l'habitude que les faux prophètes les caressent dans le sens du poil, mais quand viendra la nuit du jugement, leurs amis des beaux jours ne pavoiseront plus. Je continue à lire dans le chapitre 3 du livre de Michée. « Vous serez dans la nuit sans avoir de vision. Ce seront les ténèbres, finies les prédictions. » Verset 6. Michée s'adresse donc aux dirigeants de Juda pour leur dire que lorsqu'ils seront dans la détresse, Dieu sera de marbre et le ciel d'airain. Ils ne recevront aucune parole de consolation. Ce sera la nuit noire du jugement sans la moindre lumière au fond de leur tunnel. Parce que Saül, premier roi de tout Israël, avait désobéi à l'Éternel, il fut rejeté. Plus tard, quand les Israélites furent à nouveau en guerre, le texte dit « Lorsque Saül vit le camp des Philistins, il eut grand-peur et son cœur fut saisi d'angoisse. Il voulut consulter l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit ni par des rêves, ni par l'Ourim, ni par les prophètes. » Tout comme Saül, les dirigeants de Juda étaient coupables d'avoir dépassé les limites. Lorsque Juda fut envahi par les Assyriens, beaucoup d'Israélites furent emmenés en exil. Un peu plus d'un siècle après cet événement, quand Jérusalem fut mise à feu et à sang par les Babyloniens, le prophète Jérémie écrit « Ses portes se sont effondrées, enfouies sous les décombres. Il a détruit tous leurs verrous, il les a fracassés. Son roi et ses ministres sont exilés chez les nations païennes. Il n'y a plus de loi et ses prophètes ne reçoivent plus de révélation de l'Éternel. » Les responsables du peuple de Sion sont assis sur le sol et gardent le silence. Ils ont revêtu des habits faits de toile de sac et ils se sont jetés de la poussière sur la tête. De temps en temps, je parle du point de non-retour que tout homme peut franchir, après quoi c'est fini. Dieu n'essaye plus de l'attirer à lui et il ne le délivrera pas non plus de ses malheurs. Cette vérité est écrite noir sur blanc dans le premier chapitre des Proverbes. Je lis le passage. « J'ai appelé, et vous m'avez résisté. J'ai tendu la main et personne n'y a prêté attention. Vous avez rejeté tous mes conseils et vous n'avez pas voulu de mes avertissements. C'est pourquoi, lorsque le malheur fondra sur vous, je rirai. Quand la terreur vous saisira, je me moquerai. Quand l'épouvante comme une tempête viendra sur vous, que le malheur fondra sur vous comme un ouragan et que la détresse et l'angoisse vous assailliront, alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront, mais ne me trouveront pas. Puisqu'ils ont détesté mon enseignement et qu'ils n'ont pas choisi de révérer l'Éternel, qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et qu'ils ont dédaigné tous mes avertissements, eh bien, ils récolteront les fruits de leur conduite et ils se répéteront jusqu'à ce qu'ils en aient plus qu'assez de leurs propres projets, car la présomption des stupides causera leur mort et l'assurance des insensés les perdra. » Après avoir prononcé un jugement contre les dirigeants du peuple, Michée s'adresse aux beaux parleurs et dit « Oui, le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira sur eux, ceux qui ont des révélations seront couverts de honte et les devins perdront la face, ils se couvriront le visage car Dieu ne leur répondra pas. » Versets 6 et 7. D'une part, les faux prophètes seront sévèrement punis pour avoir menti au nom de l'Éternel et pour avoir utilisé le ministère prophétique dans le but de se remplir les poches. D'autre part, ils seront couverts de honte parce que leurs prédictions ne se réaliseront pas. L'expression « ils se couvriront le visage » est littéralement « ils se couvriront la barbe », ce qui signifie « se voiler le visage jusqu'au nez ». C'était un signe de deuil ou de honte. Faire confiance à des faux prophètes est mortel, c'est haïr son âme. Akab, roi d'Israël Nord et homme particulièrement idolâtre, en a fait l'expérience. Un jour, après avoir consulté les prophètes qui mangeaient à sa table, il a décidé de partir en guerre avec le roi de Juda contre les Syriens. Le texte dit « Le roi d'Israël rassembla les prophètes qui étaient environ 400 et leur demanda « Dois-je aller combattre pour reprendre Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer ?» Ils répondirent « Vas-y, le Seigneur la livrera au roi !» Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, revêtus de leurs costumes royaux, siégeaient chacun sur un trône sur l'esplanade qui s'étend devant la porte de Samarie, tandis que tous les prophètes étaient devant eux dans un état d'exaltation. L'un d'eux, Sédécias, fils de Kenana, s'était fabriqué des cornes de fer et affirmait « Voici ce que déclare l'Éternel. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à leur extermination. » Tous les autres prophètes confirmaient ce message et disaient « Va attaquer Ramoth en Galaad. Tu seras vainqueur et l'Éternel livrera la ville au roi. » Sur ces entrefaites, on alla chercher Miché de Yamla, le prophète de l'Éternel, qui apparemment était en prison. L'envoyé lui a dit « Tous les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi. Tu ferais bien de parler comme eux et de lui prédire aussi le succès. » Ce conseil était à peu près aussi intelligent que de faire pivoter une girouette pour changer la direction du vent. Cependant, Miché de Yamla ne s'est pas laissé impressionner et il a dit « J'ai vu tous les Israélites disséminés sur les montagnes. Ils ressemblaient à des brebis qui n'ont pas de berger et l'Éternel a dit « Ces gens n'ont plus de souverain. Que chacun d'eux retourne tranquillement chez soi. » Mais Akab a préféré se fier à ses mignons et a ordonné de faire jeter Miché de Yamla au cachot. Ce dernier lui a lancé un dernier avertissement disant « Si vraiment tu reviens sain et sauf, ce sera la preuve que l'Éternel n'a pas parlé par moi. » Qu'à cela ne tienne, les rois d'Israël et de Juda partirent au combat et ce qui devait arriver arriva. Le texte dit « Un soldat syrien tira une flèche de son arc au hasard. Elle atteignit le roi d'Israël à la jointure entre les pièces de la cuirasse. » Alors le roi cria au conducteur de son char « Fais demi-tour et conduis-moi hors du champ de bataille, car je suis blessé. » Finalement, il expira dans la soirée. Parlant au nom de Dieu, deux vrais prophètes de l'Éternel dénoncent les brebis galeuses, disant « Je vais faire peser ma main sur les prophètes qui ont des révélations fausses et qui prononcent des oracles trompeurs. » Ils ne siégeront pas au conseil de mon peuple, ni ne seront inscrits sur la liste des membres de la communauté israélite. Ils ne rentreront pas au pays d'Israël, et vous reconnaîtrez que je suis moi le Seigneur, l'Éternel. » Après Malachie, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, le soleil prophétique s'est couché, car l'Éternel s'est tu pendant 4 siècles. Cependant, Malachie avait annoncé qu'il se lèverait à nouveau. Il écrit « Mais pour vous, cependant, vous qui m'êtes fidèles, pour vous se lèvera le soleil de justice qui portera dans ses rayons la guérison. » Après une longue nuit de 400 ans, ce soleil de justice s'est levé. C'était la venue de Jésus. Je continue le texte de Miché. « Mais moi, grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de force, d'équité, de courage pour dénoncer sa révolte à Jacob et à Israël son péché. » Verset 8. La révolte de Jacob et le péché d'Israël sont deux affirmations identiques. Leur mise en parallèle est un procédé poétique. Les prophètes menteurs ont lâchement vendu leur âme et leur conscience aux grands et aux puissants. Ils sont de caractère faible et n'ont aucune idée de ce qui est juste, car pour eux, le mal c'est bien et le bien est mal. Leur seul but est de s'engraisser, et pour cela, ils caressent les oreilles de ceux qui les emploient. Par contraste, Miché parle au nom de l'Éternel et selon la perspective divine. Il a une juste conscience de sa mission et remplit le ministère d'un vrai prophète. Il a pleinement conscience d'être inspiré. Il est animé par l'Esprit de Dieu, de qui il reçoit son message, et il parle rempli de la force d'en haut. Le vrai prophète sait faire la différence entre ce qui est juste et injuste, et il a le courage moral de dénoncer vaillamment les fautes de ses auditeurs. Seul un vrai prophète est capable de dévoiler à Israël ses vices avec courage et sans faiblir, sans commettre d'erreur et sans tenir compte des dispositions de ceux qui l'écoutent, ce qui est aussi le seul moyen d'œuvrer à leur salut. Sa résolution est ferme et il ne se soucie pas du « quand dira-t-on ». Ce n'est pas que son bien-être et son confort ne lui importent pas, mais ils sont secondaires à sa mission. Je continue le texte. Écoutez donc ceci, chef du peuple issu de Jacob, et vous qui gouvernez le peuple d'Israël, qui détestez le droit et qui corrompez la justice, qui bâtissez Sion en répandant le sang et Jérusalem par le crime, versets 9 et 10. Les chefs détestent le droit, littéralement, ils ont le droit en abomination. Il n'est donc pas étonnant qu'ils bâtissent Sion en répandant le sang et Jérusalem par le crime. Ces deux déclarations synonymes sont parallèles, un procédé poétique qui sert à insister sur une idée. Michée est violent car il dit que pour les dirigeants, le sang est en quelque sorte le mortier qu'ils utilisent pour construire leur somptueuse villa et embellir leur ville sainte. Le prophète Michée donne une leçon de courage en dénonçant haut et fort la conduite ignoble des grands du royaume. En gros, il leur dit « Vous qui, par votre position sociale, devrez être des modèles, les garants de la justice et du droit, vous violez toutes les lois humaines et divines, vous tordez ce qui est droit et déformez toute notion de justice. » Le prophète Ésaïe, contemporain de Michée, n'a pas mâché ces mots non plus, car il leur a dit « Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal, vous qui changez la lumière en ténèbres, les ténèbres en lumière, vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume, vos mains sont tachées de sang et vos doigts de péché, vos lèvres disent des mensonges, votre langue susurre des paroles perfides, personne n'invoque le droit et nul ne plaide selon la vérité, on s'appuie sur des faussetés, et l'on allègue des mensonges, ils conçoivent le mal et enfantent le crime, leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de verser le sang innocent, leurs pensées sont sans cesse orientées vers le mal, dévastation et destruction jalonnent leur parcours, ils ne connaissent pas le chemin de la paix et le droit est absent des routes qu'ils empruntent, les sentiers qu'ils se tracent sont des voies tortueuses, quiconque s'y engage ne connaît pas la paix. « Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Vous avez beau multiplier le nombre des prières, je ne vous entends pas, car vos mains sont pleines de sang. Jérusalem, comment se fait-il donc que la cité fidèle soit devenue une prostituée, toi jadis pleine de droiture, où la justice demeurait, maintenant tu abrites des assassins ?» Plus tard, le prophète Ézéchiel dira « Chez toi, on se laisse corrompre par des présents pour répandre le sang. Tu extorques le bien de ton prochain par la violence. » Je continue le texte de Michée. Ces chefs rendent leur jugement contre des pots de vin, et ces prêtres se font payer pour dispenser l'enseignement, et ces prophètes prédisent l'avenir pour de l'argent, et ils s'appuient sur l'Éternel en disant « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous ?» Par conséquent, aucun malheur ne pourra nous atteindre. Verset 11. Les chefs politiques, les prêtres et les prophètes constituent les trois principaux types de dirigeants du pays et ils ont pour dénominateur commun l'avidité et la soif de richesse. Ils sont tous corrompus par l'argent. Ésaïe écrit « Tes chefs sont des rebelles, complices de voleurs, ils aiment tous les pots de vin et sont avides de présents. » Ils ne défendent pas les droits de l'orphelin, la cause de la veuve jamais ne leur parvient. Michée ne mentionne pas les juges et les magistrats parce qu'ils rendaient la justice sous l'autorité des prêtres. En tant que dépositaires de la loi de Moïse, ces derniers avaient pour mission de la faire connaître au peuple, et cela gratuitement puisqu'ils étaient déjà payés par les dîmes et les offrandes. Mais ce n'était pas le cas, car ils enseignaient moyennant finances. Ils ne tenaient donc aucun compte de la loi dans laquelle il est écrit « Dans toutes les villes que l'Éternel, votre Dieu, vous donnera, Vous instituerez des juges et des magistrats dans vos tribus, et ils jugeront le peuple en rendant de justes jugements. Vous ne fausserez pas le cours de la justice, vous ne ferez pas preuve de partialité envers les personnes, et vous ne vous laisserez pas corrompre par des cadeaux, car ceux-ci aveuglent même les sages et compromettent la cause des innocents. Aujourd'hui aussi, il n'y a guère que l'argent qui compte. Si se prosterner devant une idole de plâtre est passé de mode, beaucoup de gens ont encore un Saint-Christophe comme porte-clé, consultent l'horoscope tous les jours et une diseuse de bonne aventure de temps en temps. Ils possèdent quelques statues, voire une patte de lapin en guise de porte-bonheur. Ça peut servir, sait-on jamais. Ces superstitions sont des idolâtries, mais la pire et la plus répandue de toutes est la cupidité, le désir de posséder toujours plus. Parce que l'Éternel avait élu résidence dans le temple de Jérusalem, il était présent au milieu de la nation, ce qui faisait croire aux responsables du pays qu'ils étaient à l'abri de tout malheur, quelle que soit leur conduite. Mais ce n'était là que pure présomption de leur part, car les termes de l'Alliance prévoyaient des sanctions si le peuple et ses dirigeants ne satisfaisaient pas les exigences divines. Les prophètes Jérémie et Amos écrivent « Cessez de vous fier à ces paroles trompeuses. Voici le temple de l'Éternel, voici le temple de l'Éternel, oui, c'est ici qu'est le temple de l'Éternel. Efforcez-vous de faire ce qui est bien et non ce qui est mal, afin que vous viviez et qu'ainsi l'Éternel, Dieu des armées célestes, soit vraiment avec vous, ainsi que vous le prétendez. » Les chefs de la nation et le peuple dans leur sillage étaient aveugles et marchaient dans d'épaisses ténèbres car ils n'avaient aucune notion de justice ou de vérité. Comme leur foi était matérialiste et dénuée de toute compassion, ils pratiquaient une religion sans morale. En fait, le royaume de Juda était tombé aussi bas que son voisin Israël Nord. Le prophète Jérémie écrit « Les prêtres n'ont pas demandé où donc est l'Éternel. Les spécialistes de la loi ne me connaissent pas. Les dirigeants du peuple se sont révoltés contre moi. » Et les prophètes même proclament leur message au nom du dieu Baal. Ils vont après des dieux qui ne servent à rien. Je finis le chapitre 3 de Michée. Aussi, par votre faute, Sion sera labourée comme un champ et Jérusalem deviendra un tas de ruines. La montagne du temple sera une colline couverte de broussailles. Verset 12. Michée est le premier prophète à annoncer la ruine de Jérusalem et du temple. Surtout du temple. Les prophètes Ésaïe puis Jérémie écrivent « Le palais est déserté et la ville animée, abandonnée, la citadelle avec la tour de guet servira de caverne à tout jamais, et les ânes sauvages y prendront leurs ébats, les troupeaux y paîtront. Oui, si notre cœur souffre, si nos yeux sont plongés dans les ténèbres, c'est parce que le mont Sion a été dévasté et les renards y rôdent. » D'après le prophète Jérémie, cette prédication de Michée a eu pour effet de pousser le roi Ézéchias à entreprendre des réformes religieuses pharaoniques. Grâce à son attitude pieuse, le jugement fut différé et Juda survécut plus de 130 ans au royaume israélite du Nord. Cependant, la prophétie de Michée fut éventuellement accomplie par les Babyloniens. Dans les temps antiques, il était fréquent pour une armée victorieuse de faire passer un soc de charrue sur les fondations d'une ville conquise. Selon plusieurs traditions, lors de la mise à sac de Jérusalem par les Romains, un officier aurait ainsi détruit le sous-sol de Jérusalem. Déchu de sa dignité, la sainte montagne de l'Éternel sur laquelle était construite le temple de Salomon redevint la colline boisée de Morodja sur laquelle Abraham offrit son fils en sacrifice à l'Éternel. Vers la fin du XIXe siècle, un pasteur a écrit un livre dans lequel il dit « Le sol du mont Sion descend abruptement vers l'est et le sud, la totalité de la colline » est cultivé, ce qui est l'accomplissement littéral de la prophétie de Michée.